On va revenir sur les 31 000 militaires ukrainiens morts et presque 2 ans de guerre plus tard. Eh bien, ce conflit en Ukraine semble être dans l'impasse. L'occasion pour nous de faire un point sur la situation avec Nicolas Tenzer. Il est spécialiste des questions géostratégiques. Il est auteur aussi de Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Il était au micro de Lucie Gilson.
Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions géostratégiques. Vous venez de publier Notre guerre aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage qui se propose de revenir sur la voie stratégique indispensable pour avancer dans un monde en guerre. Alors que le 24 février a marqué le 2e anniversaire du déclenchement de l'attaque à grande échelle de Moscou, l'Ukraine se retrouve dans une position extrêmement difficile sur le front. C'est ce qu'a reconnu la semaine dernière le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'armée ukrainienne est en manque d'effectifs et réclame des munitions et davantage de systèmes de défense aérienne pour contenir une armée russe à l'offensive. L'Ukraine est-elle en train de perdre cette guerre ?
Alors non, l'Ukraine n'est pas véritablement en train de perdre. Ce qui est vrai en revanche, c'est que la contre-offensive n'a pas donné les résultats escomptés, essentiellement de notre faute à nous, occidentaux, parce que nous n'avons pas livré les armes nécessaires en Ukraine. Un tiers seulement des munitions prévues ont été livrées et l'Ukraine manque aujourd'hui de ce qui est essentiel pour lancer une contre-offensive victorieuse, c'est-à-dire d'armes capables de frapper dans la profondeur le dispositif ennemi, qu'il s'agisse de missiles à longue portée, d'avions de chasse. Tout ceci a été donné, encore une fois, au compte-goutte et d'ailleurs même les avions de chasse ne sont toujours pas arrivés dans les airs ukrainiens. Alors pourquoi est-ce que l'Ukraine n'est pas en train de perdre? Parce qu'on s'aperçoit que tout simplement les avancées des Russes au cours des 6 mois ou des 9 mois précédents n'ont pas été non plus très concluantes. En fait, on regarde le front, il est plutôt gelé. Alors, il y a eu des petites avancées russes, il y a eu la ville d'Advitka qui a été prise, oui, bien sûr. En revanche, on ne peut pas vraiment parler de percée significative de la part des forces russes. Les Ukrainiens tiennent bon, mais à un prix extrêmement élevé. En revanche, on peut craindre évidemment pour les mois prochains, en particulier si les armes nécessaires ne parviennent pas à l'Ukraine, parce qu'entre-temps, la Russie est passée en économie de guerre. Grâce au contournement de sanctions, elle reçoit des armes, notamment de l'Iran et de la Corée du Nord, et elle reçoit aussi des composants d'autres pays, y compris d'ailleurs malheureusement parfois des composants occidentaux qui servent l'industrie de guerre russe. Donc il y a véritablement urgence pour que la situation sur le terrain ne se retourne pas.
Mais le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est quand même adressé ce week-end à ses alliés occidentaux. Il a déclaré « la victoire dépend de vous ». C'est également votre analyse ?
Absolument, c'est ce que je dis d'ailleurs aussi dans le livre que vous venez de citer, Notre guerre, c'est que concrètement, il y a une responsabilité, et je vais même aller un peu plus loin, une forme de culpabilité des Occidentaux de ne pas avoir pris la mesure tout de suite du fait que la guerre lancée par la Russie de Poutine contre l'Ukraine était une guerre totale, que Poutine ne s'arrêterait jamais. Qu'il n'y avait aucune raison qu'à un certain moment, même après les quelques débâcles, si j'ose dire, de l'armée russe au début, il ne recoulerait, il n'abandonnerait. Donc on s'aperçoit que les Occidentaux ont donné ces armes au compte-gouttes. Rappelez-vous même les débats sur les chars allemands Léopard 2, ça a mis du temps à ce qu'ils soient donnés. Les missiles à longue portée Taurus n'ont toujours pas été donnés par l'Allemagne. Les États-Unis n'ont donné que 20 ATCMS, là aussi des missiles à longue portée à l'Ukraine, alors que les généraux américains disent eux-mêmes que les États-Unis auraient pu en donner 300 sans dégarnir leur stock. Et les économies européennes, malgré des appels en ce sens d'Emmanuel Macron dès le 13 juin 2022 sur l'économie de guerre, eh bien justement, ils ne sont pas passés en économie de guerre. Donc ça veut dire que les productions d'obus ont été extraordinairement faibles. Et même aujourd'hui, vous voyez par exemple que sur les F-16 qui devraient arriver à la fin du printemps, au début de l'été, il n'y en aura que 18. Et encore, ce sont des avions qui seront des avions en fait à la disposition d'armées de l'Europe, de l'Union européenne, notamment des Pays-Bas, et que les F-16 américains, de l'armée américaine, ne sont toujours pas donnés. On espère d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, que la France va enfin débloquer l'envoi des Mirage 2000D à l'Ukraine. Ce serait tout à fait nécessaire. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience des Occidentaux que cette guerre est effectivement totale, que la ligne de front est véritablement en Ukraine, que nous devons faire non seulement plus, parce que ça tout le monde dit, il faut faire plus. Non, il faut vraiment passer à une aide véritablement industrielle. Il faut que les économies européennes se mettent véritablement en état de produire de manière massive des armes pour l'Ukraine, parce que c'est ça l'avertissement du président Zelensky aussi, c'est de dire que la situation peut évidemment se changer de tout au tout, parce que l'armée russe a appris de ses erreurs. Poutine est prêt à sacrifier, s'il le faut, des millions d'hommes pour lancer cette nouvelle offensive, et donc le temps presse, le moment est véritablement charnière.
Alors, la semaine dernière, on apprenait la mort de l'opposant politique Alexei Navalny, qui a permis un nouveau coup de projecteur sur la situation en Russie et surtout sur la situation délicate du coup entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retournement de situation et un impact sur la guerre en Ukraine avec peut-être un affaiblissement de la position de la Russie au regard de la communauté internationale?
Alors là aussi, j'ai l'impression que la prise de conscience a été extraordinairement tardive parce que le meurtre, je crois qu'il faut l'appeler ainsi, d'Alexei Navalny par le Kremlin, et c'est un ordre qui a été donné quand on connaît la machine russe, on le sait directement par Vladimir Poutine, ce n'est pas un sous-fifre quelconque qui a commis cet assassinat, enfin, qu'il a peut-être commis, mais en tout cas ce n'est pas lui qui l'a ordonné, ça c'est parfaitement évident, ce n'est jamais que la suite d'une longue litanie de meurtres, il y en a eu plus de 300, rappelez-vous Anna Politkovskaya en 2006, rappelez-vous Natalia Estemirova en 2009, donc le régime russe était déjà un régime criminel, si l'on regarde aussi ce qui s'est passé depuis 24 ans, d'abord en Tchétchénie, puis en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, dans plusieurs pays d'Afrique, avec également la mainmise de Poutine sur le Bélarus où il soutient le dictateur Loukachenko. Toutes ces alertes existent depuis longtemps et je me rappelle, pour avoir alerté moi-même depuis plus de 15 ans sur ce régime, en disant en 2008 qu'il faut arrêter la Russie. En Géorgie, en le redisant en 2014, en le redisant en 2015 déjà, quand les Russes sont entrés massivement en Syrie, où ils ont commis plus de crimes que même Daesh, il ne faut pas l'oublier, rien que la Russie a commis plus de crimes que même Daesh en Syrie. La réalité, c'est que plus le temps presse, et je crois qu'aujourd'hui il y a enfin cette conscience, plus effectivement il va être difficile, coûteux, bien sûr, de défaire la Russie.
Donc vous n'êtes pas très optimiste sur une issue alternative, disons, des prochaines élections russes alors.
Non, alors d'abord parce que les prochaines élections russes, on le sait, sont malheureusement complètement jouées. Ça, c'est parfaitement évident. Il n'y a pas de candidat libéral qui soit autorisé à se présenter. Ils sont tous soit en exil, soit en prison. Donc ça, c'est la réalité. En revanche, c'est ce que me disent aussi mes amis qui sont des opposants russes. Ils disent, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que la Russie soit défaite en Ukraine. Si l'on souhaite qu'un jour la Russie soit libre, la défaite de la Russie est la précondition.
Alors justement, vous parlez de coût de la guerre, hein. Le G7 a promis samedi de le faire monter, ce coût de la guerre. Ça passera par un gel des avoirs, par quoi ça passerait?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, il faut que l'ensemble des avoirs gelés de la Banque centrale russe, c'est-à-dire environ 300 milliards d'euros, dont 200 milliards au sein de l'Union européenne, essentiellement gérés d'ailleurs par une société qui est sise à Bruxelles, qui s'appelle Euroclear. Il faudra effectivement que l'ensemble de ces avoirs soit saisi et transféré à l'Ukraine, d'abord pour l'achat d'armement, ensuite pour la reconstruction. Ensuite, il faut aller vers des sanctions beaucoup plus fortes. Les États-Unis ont pris de nouvelles sanctions à la suite de l'assassinat de Navalny. L'Union européenne est en est à son 13e paquet de sanctions. Mais on s'aperçoit, par exemple, qu'aujourd'hui, certains pays européens achètent du gaz naturel liquéfié ou de l'uranium à la Russie, enfin plutôt il y a un système de retraitement d'uranium qui a été mis en place par la Russie et vous avez un commerce des États européens avec la Russie là-dessus. Rappelez-vous aussi qu'une banque autrichienne, pays membre de l'Union européenne, Raiffeisen, a effectué l'année dernière la moitié de ses profits avec la Russie. Il y a beaucoup de pays, on le sait, qui contournent les sanctions. Certaines ne sont pas bien suivies, d'où les composants occidentaux dans un certain nombre d'armes qui servent à frapper l'Ukraine. Donc il faudra que l'Union européenne aussi décide des sanctions extraterritoriales massives. Je rejoins tout à fait les propositions, par exemple, de la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui disait, il est temps aujourd'hui de cesser tout commerce avec la Russie. Faisons un embargo total sur les produits russes. Il faudrait que les sociétés encore occidentales qui travaillent en Russie, il y a des sociétés de tous les pays de l'Union européenne, y compris la France, mais aussi des sociétés américaines, il faut absolument qu'elles quittent la Russie. Et je pense que là aussi, il faut être tout à fait ferme. Alors, pour certaines sociétés, ce sera difficile. Il faudra peut-être prévoir des systèmes d'indemnisation. Bon, tout ça, c'est effectivement, c'est de la cuisine interne, si j'ose dire. Mais je pense qu'il faut être totalement clair. Il faut que le coût soit beaucoup plus élevé pour la Russie. J'espère que le G7 parviendra à établir, au-delà des mots, des mesures concrètes, pratiques, pour aller dans ce sens.
Alors, la Commission européenne, quant à elle, propose de permettre l'utilisation des bénéfices réalisés sur les avoirs russes gelés dans l'Union européenne pour la reconstruction de l'Ukraine. Comment vous évaluez cette proposition et qu'est-ce que cela implique exactement?
Alors, ça, c'est effectivement pour l'instant ce qui est le consensus des pays de l'Union européenne, mais je pense que c'est tout à fait insuffisant. C'est pour ça que j'estime que la confiscation et la distribution à l'Ukraine de l'ensemble des avoirs gelés de la Banque centrale russe est une exigence. Là, vous parlez des intérêts. Les intérêts, évidemment, c'est très peu par rapport aux avoirs eux-mêmes. Vous voyez comment encore aujourd'hui, mais il le fait depuis des années, bien avant le 24 février 2022, Poutine utilise l'arme du chantage nucléaire. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment ne pas avoir peur. Il faut aller jusqu'au bout parce que dans cette guerre, vous savez, il y a une sorte de jeu à somme nulle. Ce sera soit l'Ukraine et nous gagnerons, ce sera soit la Russie. Là aussi, il n'y a pas de voie intermédiaire.
Eh bien, Nicolas Tenzer, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques et que vous venez de publier Notre guerre aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.